Bonsoir et bienvenue dans le 14e épisode de la 3e saison de Culture Sang et Or, l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du Racing et l'actu du peuple Sang et Or, des Lensois qui continuent sur leur rythme incroyable grâce à ce nouveau succès face à Clermont samedi. On va bien sûr revenir sur ce 8 sur 8 à domicile dans un instant. Dites-nous d'ailleurs dès maintenant en commentaire ce que vous avez pensé du match. Tout va bien côté Sang et Or, même si on a appris juste après le match le départ de deux membres de la cellule performance. Alors quel impact pour la suite de la saison? On en parle tout à l'heure dans l'actu. Puis à la pause, on jouera bien sûr avec le quiz. Et puis en deuxième partie d'émission, on fera un premier débrief sur ce début de saison. D'abord dans le débat, le Racing doit-il se renforcer dans toutes ses lignes? Ce sera un débat un peu mercato. Et puis au tiers du championnat, les Lensois réalisent le meilleur début de saison de leur histoire et passera la trêve au chaud. Quel bilan tiré de ces 15 premiers matchs? Réponse tout à l'heure avec nos chroniqueurs qui vont m'accompagner et que je vais vous présenter tout de suite le casting de ce 14e épisode. Et il prend parfois le rôle de joker de luxe à la présentation de l'émission, mais on ne peut également se passer de lui dans son analyse en tant que chroniqueur. Sam Duhamel d'RTL est avec nous ce soir. Salut Sam.
Salut Valentin, bonsoir à tous.
Jamais il n'avait fêté son anniversaire avec un Racing à 36 points. C'est fait depuis hier. Thomas Fauvergue est là également. Salut Thomas.
Salut Valentin, bonsoir à tous.
Sa connaissance et sa mémoire sur les performances lensoises ne lui seront d'aucune aide cette fois. Non, il n'existe aucun autre meilleur début de saison du Racing dans l'histoire. C'est Guillaume qui sera notre troisième chroniqueur. Salut Guillaume.
Salut Valentin, bonsoir à tous les supporters lensois.
Enfin, il vit les plus beaux moments de sa vie en tant que supporter lensois, jeune supporter lensois. C'est Antoine Combe qui clôture les présentations. Salut Antoine.
Bonsoir à tous et bonsoir à tous les dauphins de France.
Allez, réagissez dans les différents chats de l'émission. Il est temps de siffler la première mi-temps. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Culture Sang et Or sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram. Rendez-vous aussi sur notre site web culturesangetor.com. Vous y trouverez plein d'articles sur le club. Le feu de cheminée crépite. Le fauteuil est confortable. La couverture bien douillette. Oui, le Racing va passer la trêve bien au chaud à la seconde place de cette Ligue 1 qui lui va comme un gant. Une force physique, mentale et un talent qui ne cesse de s'exprimer. C'est par un succès mérité face à Clermont que les Lensois ont clôturé cette première partie de saison record. Alors messieurs, pour débuter le débrief de ce match, premier tour de table, simplement votre ressenti après le match, après cette 11e victoire du Racing en 15 rencontres. On va débuter avec Guillaume.
Alors en un mot, je dirais renversant, hein, puisque c'est la première fois qu'on était mené à Bollard, et puis ça ne nous a pas empêché d'empocher les 3 points. Avec encore une prestation d'un haut niveau. Donc voilà, renversant pour moi, c'est le terme que j'associerai à cette soirée de samedi.
Sam, ton ressenti après la 11e victoire?
Je me suis dit que c'était mérité, je me suis dit que c'était logique et je me suis dit qu'il y avait un côté un peu insubmersible à cette équipe et que malgré les événements contraires, il y avait toujours les capacités physiques et mentales pour renverser la situation.
Exactement. Thomas, on passe à toi.
Et moi, quelle sérénité on avait, en fait. T'es mené, t'es contre le cours du jeu et tu te dis, bah, on va le faire, on va revenir tranquillement, égaliser, remettre 2-1, peut-être 3-1, mais pas d'inquiétude, en fait.
Pas d'inquiétude. On finit avec Antoine Combe.
Voilà, la même chose, la sérénité. Parce que autant on rentre à la mi-temps en étant mené, mais je pense que 90% du stade savait que le score serait tout inverse dans une heure, quoi.
Ouais, ouais.
Moi, la sérénité.
Et même Seko Fofana à la mi-temps, hein, dans son débrief au micro de Prime, disait si on en met plus, c'est sûr, on va retourner la situation. Thomas a un petit peu spoilé hein, ma première question, en tout cas mon premier point. Lens mené contre le cours du jeu, c'était un petit peu la question que j'allais vous poser sur cette première mi-temps. Quand on regarde les expected goals, hein, alors ça ne veut pas tout dire évidemment encore une fois, mais clairement il est à 0,2 sur cette première mi-temps. Est-ce que c'était finalement contre le cours du jeu ce but clermontois et le fait que Lens soit mené à la mi-temps, Sam?
Bah, si tu veux, j'aurais tendance à répondre oui dans un premier temps, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette grosse occasion là avec la tête de Viteska au tout début du match et Brice Samba qui réalise cet arrêt réflexe qui est de mon point de vue un arrêt réflexe de très haut niveau. Et puis après il y a cette occasion qui est plus, on va dire, spectaculaire que véritablement dangereuse, c'est la frappe de Grégion Kay là au 25 mètres. C'est vrai que Brice est légèrement avancé, donc
ouais, c'est ça en fait.
Ça nous donne une parade un peu spectaculaire, mais je pense qu'effectivement en termes de expected goal, ça devait pas être énorme. Donc il y a deux trois situations pour pour Clermont. Et c'est vrai que quelque part, on a quasiment perdu cette habitude de voir Lens concéder des occasions. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais globalement, sur cette première mi-temps, il y avait déjà cette impression de maîtrise et de sérénité qui s'est en fait accrue au fil des minutes. Et en fait, il y avait quelque chose d'inéluctable, pour reprendre ce que disait Antoine, là, quelque chose d'inéluctable, à savoir l'égalisation et ce deuxième but. Donc, ouais, pour moi, c'était plutôt contre le cours du jeu, ouais, très clairement. Donc, voilà.
Surtout que Guillaume, le Racing a quand même eu des occasions en première mi-temps. Le manque d'efficacité a peut-être pêché pour le Racing sur cette première période. À la mi-temps, S disait, il en fallait un petit peu plus. Il en fallait un petit peu plus. 10 tirs, un seul cadré sur cette première mi-temps. C'est vrai que le Racing a aussi pêché en termes d'efficacité.
Non, mais tu me donnes l'occasion de rebondir sur ce que ça me dit, effectivement. Ouais. Si le score est immérité, c'est pas forcément sur le but de Clermont, parce qu'ils ont le droit de marquer un but en ayant trois occasions ou deux et demi. Par contre, c'est plutôt nous on doit alors j'ai pas vu l'XG à la mi-temps, mais
il y a un XG pour le Racing.
Ouais, on doit presque être à deux buts marqués, quoi, parce que Saïd il en a plusieurs, Seko Fofanos également. Il y avait quand même beaucoup d'espace sur le côté droit. Frankowski il a centré, alors je pense parfois avec un manque de, alors il y a un peu trop en première intention et avec un manque un peu de défaut de précision, mais je veux dire les situations, alors peut-être pas des occasions c'est pour ça que les XG sont à 1, mais les situations on les a pour en marquer un, et après quand tu en marques un, ça dépend à quel moment. Si c'est nous qui ouvrons le score, effectivement, c'est pas sûr que Clermont ait cette opportunité, mais c'est surtout sur l'aspect offensif de Lens qu'on peut avoir quelques regrets. Après, sur l'aspect défensif, je trouve qu'on a bien défendu, on a très peu concédé. Bon, ben après, c'est quand même un peu un but casquette, hein. C'est un peu un coup de bière dans la surface sur un corner. Bon, voilà, c'est pas non plus la chance n'est pas, peut être contre nous sur une action, hein.
En tout cas, ce but a été encaissé après la 30e minute de jeu. Donc, le Racing n'a toujours pas encaissé de but cette saison dans les 30 premières minutes de jeu. Dans le chat, Guillaume nous dit, un autre Guillaume nous dit, même des tribunes, pas inquiet à 0-1. C'est le sentiment aussi, Thomas, que tu avais quand je t'ai posé la question tout à l'heure. Malgré tout, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette première mi-temps? Est-ce que tu t'es dit que le Racing avait quand même raté le coche?
Pas forcément raté le coche, parce qu'on savait qu'il allait revenir en deuxième.
Ouais.
C'est qu'on aurait pu être encore plus serein, à la mi-temps, et se dire j'aimerais bien avoir un match plié. Il sera jamais plié, mais un petit 3-0 à la mi-temps, on est tranquille et on peut partir dans une folie en deuxième, parce qu'on peut se lâcher de tous les côtés. Mais Saïd
m'a aimé. C'est pas le cas du Racing depuis le début.
C'est ça. Voilà. Je vais pas ressortir le classique 1-0 jusqu'à la dernière journée, mais voilà, un but d'écart, c'est tout aussi important. Et c'est vrai que si Saïd cadre sa tête au bout de 24 secondes,
c'est vrai,
on est déjà plus du tout dans le même match, parce que clairement on n'était pas loin des intentions de jeu des adversaires de Lens à Bollard depuis le début de saison. C'est ne pas encaisser et espérer un but, soit en compte, soit peut-être un but de casquette comme ils l'ont eu, mais
il y aurait pu avoir aussi un penalty pour le Racing en première mi-temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
J'ai pas revu les images, mais c'est ce que
je trouve qu'il y a faute sur Saïd. Après, bon, voilà, ça aussi aurait pu faire tourner cette première mi-temps en la faveur du Racing. Malgré tout, donc Lens est mené en première période et en deuxième mi-temps, pour le coup, on a vu un Racing tout terrain. Là, c'est sûr, clairement, on n'a quasiment pas eu d'occasion. Et on a surtout vu un apport exceptionnel des défenseurs centraux, Antoine, sur cette deuxième mi-temps, qui sont à l'origine des deux buts du Racing, Facundo Medina dans sa gestuelle dans la surface, et puis Jonathan Grady qui est impliqué également sur la passe décisive à Seko Fofana. Les défenseurs centraux ont fait la différence sur cette deuxième mi-temps.
C'est l'un des principes de toute façon de base de Francaise. Il avait déjà dit une interview pour Winamax, je crois, où pour lui il disait, et c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué et qui, quand tu l'entends, en fait, te permet de comprendre les bases de la création lensoise. Ces joueurs, ces centraux sont ses premiers joueurs de déséquilibre. Et en fait, à partir de là, ça, tu comprends en fait tout ce qu'il veut mettre en place et de où ça part. Et quand tu regardes Medina, vu du stade sur le l'égalisation,
c'est incroyable ce qu'il se retrouve ici quand même.
Mais il te passe 2-3 minutes sur le front de l'attaque, ouais. Alors que voilà, tu te dis bon, voilà, c'est la 55e, 60e. Est-ce que Lens se joue pas comme si c'était les dernières minutes? Mais en fait, ça porte totalement ses fruits. Et c'est ça qui est incroyable, parce que même si tu te déséquilibres à ce point en mettant un de tes centraux devant, bah finalement, tu n'as pas le sentiment d'être déséquilibré à la perte de balle ou quoi. Et c'est ça qui est très fort, c'est ça qui est très intéressant. Et c'est ce dont on avait besoin quand il disait on a besoin d'en faire un petit peu plus. Bon, bah, les centraux excentrés, donc Medina et Gradit, ont besoin peut-être de monter un peu plus. Pour Medina, il a bien monté. Mais voilà, c'était l'une des petites choses qui nous manquait, apporter encore plus de déséquilibre, encore plus de présence dans la surface. Et voilà, ajuster le dernier geste, quoi. Parce que sur la première mi-temps, c'est la seule chose qui nous manque, parce que Lens a tout fait sur la première mi-temps. Il a juste pêché dans la finition. Ouais. Et c'est pour ça, à partir du moment où tu arrives à te créer des opportunités, je vais pas dire facilement, mais sur quasi chaque possession, c'est que tu as largement le match en main et que tu auras les occasions pour les mettre. Et comme le disait un joueur de Clermont, et c'est ce que aime bien rappeler Antoine, à qui je fais hommage, il y a toujours ce rapport de force. Et c'est déjà ce que j'avais souligné la semaine dernière, c'est que Lens arrive à maîtriser ce rapport de force et à obliger Clermont à jouer bas. Donc certains peuvent se dire qu'on va avoir une équipe qui va mettre le bus, etc., et qui joue bas. Mais en fait, non, là, c'est totalement Lens qui l'a imposé aux Clermontois, et les Clermontois eux-mêmes l'ont dit. Ils ont dit, ouais. Lens nous a obligés à jouer bas. Donc, à partir de là, Lens était maître de son destin sur ce match.
Ouais, on a senti, hein, dès le début de la deuxième mi-temps, Sam, la vague lensoise a vraiment 10 joueurs quasiment dans la partie de terrain des Clermontois, hormis Brice Samba qui était dans ses buts. Mais on a vraiment, même, comme je disais, hein, tous ces. Les trois défenseurs, les trois centraux, en tout cas, entre guillemets, qui ont participé activement aux allants offensifs du Racing.
Et même Brice, hein, Brice enfin, c'est une habitude, mais on l'a aussi vu beaucoup sortir de sa surface de réparation pour gagner du temps sur les relances, etc. Alors, c'est vrai que ce que vous dites là, ça me laisse un petit regret, parce que j'aurais bien posé la question à Franquès sur on va dire le côté intentionnel ou non de voir Medina en fait pratiquement deuxième attaquant pendant un quart d'heure au milieu de la deuxième mi-temps. Parce qu'il y a aussi quelque chose de culturel chez les défenseurs argentins. Je me souviens de Nestor Fabry à la grande époque nantaise qui se transformait régulièrement en avant-centre. Ouais. Et je pense qu'il c'est et en fait si vous voulez. Clairement, avec Saïd attaquant, et Saïd, on sait que c'est plus un 9,5 qui aime bien tourner autour d'un autre attaquant. Et là, effectivement, quand il est attaquant de pointe, très souvent il dézone, mais quand il dézone, effectivement, il manque cette référence dans l'axe. On a tous senti ça quelque part, qu'il manquait de quelqu'un, en fait, pour désarçonner un peu les défenseurs de Clermont. Et c'est venu de Medina. Alors, je sais pas si c'est venu vraiment de Medina ou de Franquès qui a demandé à Facundo, la prochaine fois, on lui demandera. Mais, ouais, non, mais moi, je vous dis, j'ai été marqué, je suis assez d'accord avec Antoine sur le côté imposer un rapport de force. Cette impression de machine, en fait, ouais. de machine collective où, en fait, on voit que ça pousse. Et à un moment donné, ça finit, l'élastique finit
tu
par
sais
lâcher.
Que ça va craquer, quoi. Tu sais qu'à un moment donné.
Parce qu'en fait, ça joue, enfin, je caricature un peu, mais ça joue trop bien. Ça joue trop bien pour qu'en face ça résiste les combinaisons à gauche, à droite, et ça pousse. Et enfin bref. Donc ouais, moi j'ai été encore une fois. Je trouve que c'est du top niveau, quoi. C'est vraiment du top niveau ce qu'ils proposent. Et cette deuxième mi-temps, voilà, pour moi, c'était vraiment de la maîtrise totale. Parce qu'à un moment donné, il y a même eu ce deuxième but. Donc on se dit voilà, comment ils vont gérer. Et derrière, c'est vrai que Clermont se procure quasiment zéro occasion une fois que le deuxième but en soi est inscrit. Enfin. Franchement, moi, je suis époustouflé, quoi. Je peux mieux vous dire que ça.
Ouais, on est d'accord. Pour Antoine Combes, hein, qui a 12 ans, Nestor Fabry, c'est un défenseur argentin qui a joué au FC Nantes début des années 2000, qui a joué également à Guingamp. Voilà.
Non, j'étais trop jeune.
Pour ta culture. pour ta culture.
Il parlait beaucoup aux arbitres.
Comment ?
Il parlait beaucoup aux arbitres.
Ouais, bah oui, enfin, ça, c'est la
grande. Facundo aussi.
Facundo, il parle beaucoup aussi. Hein. Mais on est d'accord qu'on a sorti, hein, on a senti cette force collective du Racing, hein, dès le début de la deuxième mi-temps. Et Guillaume, alors le premier but quasiment copie conforme du but face à Angers.
Oui, c'est moins aérien puisque c'est plus au sol, mais effectivement, ouais. On a toujours Sotoka, Frankowski qui décale Sotoka et puis Sotoka qui centre. Là, la différence, c'est que Medina est venu faire.
Côté droit.
En plus, côté droit, il est venu faire à écran ou enfin, je sais pas comment, enfin voilà, il s'est effacé pour laisser surprendre en plus les Clermontois. Et puis Saïd, il coupe souvent au premier poteau, Saïd, hein, c'est quand même une de ses spécialités. Hein. Il y a eu à Angers, mais l'année dernière aussi, il avait mis quelques buts comme ça, il me semble, contre Rennes, contre Metz. Donc voilà, c'est vraiment Il dézone beaucoup, comme on disait tout à l'heure, Saïd. Donc, il est au premier, au deuxième. Voilà, c'est super intéressant. Et bon, puis on a l'impression que ces actions-là, Saïd, je pense qu'à un moment de la passe de Frankowski, il sait déjà que Sotoka va centrer, enfin, il sait déjà ce qui va se passer. Donc, il a un temps d'avance, en fait. Et tous les joueurs ont un temps
Bien
d'avance
sûr.
parce que c'est tellement huilé, c'est tellement collectif que du coup, il y a ce temps d'avance. Et puis, ce début de seconde mi-temps, c'est pas la première fois qu'on voit un Lens qui démarre pied au plancher,
Ouais, bien sûr.
comme contre Toulouse, comme, enfin,
Mais là, l'apport des centraux m'a énormément marqué, moi, sur cette.
Ouais, et je pense que et sans la période où on a été alors, un poil moins bien, et Aïdara a vraiment fait son boulot défensif, il n'y a aucun problème. Par contre, en termes de projection, c'était un petit peu en dessous. Et même Gradit, sur ses deux premiers matchs, là où il a joué que 80 minutes, on sentait qu'il avait un petit peu de frein parce que physiquement, il ne savait peut-être pas s'il avait les 90 minutes dans les jambes, donc je pense qu'il se gérait un peu plus. Là, je pense qu'on était à son troisième match de reprise, il a senti qu'il avait les cannes. Bon, Medina, il a toujours les cannes, mais là, Grady, il revient de longue blessure. Et ben, il a apporté aussi le pendant de Medina. Et d'ailleurs, sur le deuxième but, c'est lui qui vient. Il fait partie de l'action collective et c'est lui qui vient adresser ce centre à Seco. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ces deux centraux qui ne sont pas dans un rôle que, bah, comme on vient de le dire, hein, que défensif, parce que justement, ce déséquilibre, il faut qu'il vienne de Medina et de Grady. Et ce qui permet quand même à Danso de le faire un peu moins et d'être un peu plus en maîtrise, en observation et en contrôle de ce qui se passe et de combler à droite à gauche. Et c'est ce qui se fait super bien. Et c'est aussi pour ça que les centraux peuvent aussi prendre des initiatives parce qu'ils savent que derrière, il y a Abdoul Samed, il y a Danso qui peuvent éventuellement combler. Il y a une rotation, il y a un équilibre, il y a des compensations qui se font qui sont tellement les yeux fermés et tellement naturels que même le PSG aimerait avoir ce genre de compensation.
Le Racing a étouffé également physiquement. Hein. Moi, j'ai eu vraiment cette impression-là en seconde période, Thomas. Physiquement, les Clermontois qui n'arrivaient plus à ressortir de leurs 30 mètres. Il y a la stat hein, des sprints, notamment hein, plus de 210 sprints pour le Racing, à peine 150 pour Clermont. Il y a eu ce côté aussi dessus physique hein, sur cette deuxième période, Thomas.
Ouais, carrément, et c'est on le voit depuis le début de la saison. On est mi-novembre et on les sent pas émoussés, peu importe. Et c'est aussi la bonne gestion de Francaise de son banc et de son groupe. On râle quand ça tourne, mais Openda sur le banc, c'est Saïd à la place, on voit pas la différence. Openda rentre, il a encore du jus. Les changements se font un peu plus tôt que les années précédentes aussi. Voilà, il a une gestion, une maîtrise collective et une connaissance de tous ces gars. Et même les joueurs, je pense que se connaissent mieux. Et ce gère mieux, Guillaume parlait de Grady, on est vraiment dans la gestion collective et la gestion individuelle à chaque match. Après, physiquement, bah voilà, c'est des monstres et on a l'impression qu'on peut encore être étonné.
Ouais, c'est vrai. Dans le chat, on a un certain Amoridé qui dit: je veux l'amende honorable de Guillaume sur Machado tant il est généreux et plein de bonne volonté. Voilà.
Et ben je l'ai fait volontiers et je m'étais exprimé sur Machado, c'était après le deuxième match, enfin c'était dans le match à Ajaccio où j'avais pas aimé son match après. Effectivement, je pense qu'il doit encore travailler quand même sa finition, ses centres, mais en termes de générosité, de volume de course, il n'y a pas de débat là, par rapport à ça.
Ouais, juste pour rajouter sur Machado, il fait un excellent match défensif. Le jeu a largement penché à droite sur le côté
Tu peux en
offensif.
parler parce qu'on ne va pas le noter. Donc, si tu veux en rajouter.
Parce qu'on a énormément vu, pardon, Frankowski qui fait un excellent match aussi. Donc Machado, on l'a très peu vu sur les phases offensives, mais défensivement, surtout en deuxième mi-temps, très très costaud. Donc, faut pas l'oublier.
On va noter justement des joueurs, messieurs, sur ce match-là. Et je vais commencer avec Sam et je vais lui donner le capitaine Seko Fofana.
Écoute, c'est un match contrasté pour
Avant
Seco.
son but, on n'aurait peut-être pas noté.
Ouais, tout à fait. Alors, je me souviens de cette déclaration sur le côté, il faut pas me juger comme un attaquant. Et c'est vrai que c'est pas un attaquant, c'est un milieu relayeur. Mais c'est vrai qu'il a été assez maladroit, notamment en première mi-temps. On sentait plus plein de bonnes intentions avec la volonté de créer des différences. Peut-être de manière individuelle, en fait. Et c'est vrai qu'il a souvent réussi ça, donc on peut tout à fait le comprendre et le pardonner, mais il y a eu beaucoup de déchets dans son jeu. Et en fait, quelque part, alors il marque un but, quelque part, avec pas mal de finesse. Alors, je sais pas si c'est vraiment intentionnel à 100%, mais voilà, il y a ce contrôle qui n'est pas évident du tout dans la course. Et
Et
d'ailleurs,
incroyablement, ouais.
il faut enchaîner avec cette reprise de près dans un angle qui n'est pas forcément évident. Il le fait magnifiquement. Donc voilà, c'est le but de la gagne. Donc c'est un but évidemment qui compte énormément. Donc voilà, je dis 6 parce que sa première mi-temps vais pas dire raté, parce qu'encore une fois, globalement, en fait, il joue bien, mais sur les 20 derniers mètres, il a manqué d'adresse. Voilà. Donc, je lui mettrai 6, simplement. Vas-y, Guillaume.
En interview, il a dit qu'il cherchait ce but depuis quelques matchs. Donc, je pense qu'il a, en première mi-temps, il a un peu forcé pour moi certaines actions.
Ouais. Ouais, ça s'est senti en fait. Ouais. En fait, c'est la différence entre un joueur qui veut bien faire et un joueur qui veut trop bien faire. C'est ça. Et là, je pense qu'il a voulu trop bien faire en fait.
Antoine Combes, je te donne. Tu en as un petit peu parlé, mais je vais te laisser le temps d'en parler un peu plus. Pré-Michel Frankowski sur ce match-là, que je trouve depuis. Je ne sais pas s'il y a un lien avec sa fracture du nez, mais je le trouve réveillé depuis cette fracture.
Ça me permet de faire un petit aparté pour Silvano qui j'ai beaucoup aimé sa référence au moment de l'annonce de l'équipe où il a parlé de Bollard City pour Frankowski. J'ai trouvé ça sympa. Frankowski depuis la blessure de Cabo, comme tu le dis, je sais pas s'il y a un lien de cause à effet ou pas, mais tu le sens beaucoup plus relâché dans son jeu et on retrouve le Frankowski des deux premières années. De la première année, pardon, oui. De la dernière année. Vous m'avez compris. moi aussi, je vous souhaite une trêve. Et sur ce match-là, j'ai vu qu'il a réussi un centre sur 3, 6 sur 18. Donc, déjà, il y a du mieux sur son apport offensif. On l'a tout de suite senti au niveau de la dangerosité de nos phases offensives. Et je pense que c'est un match par référence. Mais qui peut compter dans sa confiance parce qu'il a tout bien réussi, quasiment. Là où il doit encore s'améliorer, c'est ses corners, où ils sont encore assez mal tirés, du mal à encore dépasser le premier poteau. Donc sur ça, il peut mieux faire. Mais bon, s'il n'y a que ça à améliorer, ça me va amplement. Donc pour beaucoup dans la domination lensoise dans les 30-35 derniers mètres, je pense que l'arrière-gauche de Clermont était content que le match se termine. Quoi. Donc, je lui mets un 7, mais avec un peu plus de réussite, ça peut largement valoir un 8.
Ouais, parce que dans le chat, on lui met 8. Hein. Flo lui met 8, Janine lui met 8, notamment, également. Thomas Faubert, je te donne Brice Samba, qui nous a bien sauvé la mise quand même en première mi-temps sur 3 grosses occasions.
Ouais, un très bon 7, parce que ça peut être pire pour nous en première mi-temps. Au niveau des relances au pied, je l'ai trouvé beaucoup plus précis que les matchs précédents, où il y avait quelquefois des ballons partant en touche, où on avait du mal à la récupérer. Et après, on sent toute sa maîtrise et ça, voilà. Encore une fois, sérénité derrière, mais il dégage quelque chose de très puissant, qu'il transmet aux défenseurs, qu'il transmet au milieu, et on a un groupe formidable, mais c'est vraiment moi pour une des bonnes pioches du mercato. On en reparlera tout à l'heure, mais j'étais triste pour les cas, mais on est quand même passé un niveau au-dessus là.
Évidemment. Du coup, ta note
7.
7, ça très marche. Bon, 7. On va terminer avec Guillaume. Je vais lui donner. Allez, qui je lui donne ? Le buteur, le premier buteur. Oui, c'est Saïd.
Ouais, c'est Saïd. Bah, moi déjà, j'adore ce joueur.
Ouais.
Je le mets un petit peu dans la catégorie Fofana sur le match. Alors, il a beaucoup tenté en première mi-temps et sans réussite. Un peu brouillon dans sa finition, voilà, un petit peu. Mais quand je dis que je le mets un peu comme Seco, c'est qu'en deuxième, il ne s'est pas découragé. Et quand il a vraiment eu la première qu'il a eue en seconde mi-temps, il a fait filer. Donc il reste sur des statistiques. Super intéressante, c'est son cinquième but, je pense. Voilà,
tout à fait. Cinquième but déjà en 12 matchs, toi, autant qu'en 21 matchs la saison passée. Ouais.
En plus, 12 matchs. Pour rebondir, Guillaume, c'est, par rapport aux stats, je suis pas loin de penser qu'il doit être le numéro 1 en termes de minutes jouées et buts marqués. Il faudrait vérifier.
En France ou en Europe ?
En France.
En Europe, il n'en est pas loin non plus. Hein.
Ouais, il est deuxième ou troisième, je crois.
Il y a Haaland qui est devant lui au moins. Ouais,
mais Haaland ou Saïd, à mon avis, c'est du même niveau. Hein.
Enfin, il y a match. Hein. Ta note pour Wissé Saïd, du coup.
Saïd est un peu plus fin techniquement, je suis d'accord.
C'est vrai en plus, c'est totalement vrai.
Saïd, la première mi-temps, c'est plutôt 5 parce qu'il finit pas. Et en deuxième, c'est plutôt 7. Et donc, ça fait une moyenne de 6 pour moi sur ce match-là.
Ouais. Ok. Flo lui donne 7 dans le chat et Stéphane lui donne 6. Donc voilà, c'est qui fait également. On va terminer avec le débrief avant de passer à l'actu. Il y a pas mal de choses à dire aussi dans l'actu. Est-ce que l'un d'entre vous a un carton rouge ou un carton vert à donner sur ce match-là, Antoine Combes ? Et on passe à Guillaume.
Juste deux cartons, mais rapide. Carton rouge pour Hakim Ben El-Hadj, parce que Hakim Ben El-Hadj. Et carton vert pour le fair play clermontois, parce qu'il faut savoir perdre avec dignité. Les mots de Franck Hez après le derby. Et franchement, la réaction des clermontois,
j'ai bien aimé
très sportif.
La déclaration de Gatien,
ça fait aussi plaisir d'entendre ce genre de choses sur notre équipe. Hein, donc, vraiment, fair play, donc à souligner.
Ouais. Guillaume.
Bah exactement comme Antoine, mais à l'inverse, carton vert pour Hakim Ben El-Hadj.
Carton vert, ah ouais.
Bah oui, il n'y a pas eu de blessé, on n'est pas eu d'arrêt maladie pendant 3 mois, donc vraiment très bien géré de l'arbitre.
Ouais, ok. Allez, on va passer à l'actu, messieurs, hein, sur l'actu du Racing. Il y a pas mal de choses à dire. D'abord, on va revenir sur les matchs des autres équipes. Alors, les filles sont en trêve hein, avant de reprendre en Coupe de France dans une semaine, mais il y avait les équipes de jeunes et la N3 qui jouaient, hein, et la formation lensoise qui continue de performer. Puisque chez les U19 de Johan Desmond, dans le choc de haut de tableau, hein, les jeunes sans heures ont brillamment disposé du leader et qui était invaincu, Montfermeil. Score final 4-1 pour le Racing sur Montfermeil. Lens prend du coup la tête du classement du championnat U19. La N3 s'est également de nouveau imposée. Cette fois, c'était à Amiens. Victoire 2-0 des hommes de Vincent Carlier, avec notamment but de Yaya Fofana. Hein, on se souvient qu'il est arrivé à. Cette saison, Yaya Fofana. Les Lensois prennent la seconde place, eux, du classement de National 3. Tout va bien pour le moment, du côté également de la formation du Racing Club de Lens. Et puis, on va passer au gros de cette actu du Racing. On l'a appris juste après la victoire face à Clermont, dans un communiqué un petit peu au vitriol, hein, quand même, le communiqué du Racing Club de Lens. Le Racing a annoncé que deux membres de sa cellule de performance. Alors, il ne les nomme pas, ces membres, hein, dans le communiqué. Je ne sais pas si vous avez noté. Laurent Bessière, son directeur, et Ghislain Dubois, préparateur physique, ont décidé de quitter le Racing Club de Lens. Hein, c'est des pièces maîtresses, parmi d'autres, de la réussite du club. Ils ont été débauchés par une ancienne connaissance du Racing Club de Lens, en l'occurrence, Florent Ghisolfi, récent DS de l'OGC Nice, qui lui a quitté également, hein, un peu précipitamment, le Racing il y a quelques semaines de ça. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette information? Est-ce que vous pensez que ça va avoir des répercussions sur la suite, sachant que il faut pas oublier qu'ils ont un préavis hein, quand même de 3 mois à réaliser, que apparemment le Racing ne libérera pas ces deux membres de leur préavis et que selon les infos ils auraient demandé à respecter eux ce préavis. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette info et des répercussions que ça peut avoir? Sam, je te vois hausser la tête un petit peu.
Alors, par rapport à la question du préavis, effectivement, la libération, c'est dans le communiqué, c'est au plus tard, ouais. à la fin du préavis. Mmh. Non, de mon point de vue, c'est une très mauvaise nouvelle. Mmh. On parle de deux rockstars, notamment. Enfin, je connais plus Laurent Bessière que Ghislain Dubois, mais en termes de préparation physique, c'est ce qui se fait de mieux. On était vraiment. Avec quelque part un dentelier qui est vraiment un expert de la préparation physique. De toute façon, il suffit de voir un peu la manière dont lui et les autres, hein, il n'était pas seul dans ce staff, mais ont réussi à maximiser le potentiel de l'équipe sur ces 3 dernières années. Donc voilà. Alors a priori, il s'est engagé pour trouver son successeur d'après l'article de Joël Dominguetti de l'équipe. Mmh. Mais moi, j'ai été marqué effectivement. Tu parlais de communiqué au vitriol, de la différence entre guillemets. Entre le communiqué qui était très cinglant, voilà, sur le côté, voilà, ils ont très bien travaillé, mais le côté inversement proportionnel par rapport au timing du départ, en gros, ça voulait dire, on est vraiment agacé qu'ils nous quittent à ce moment-là.
Ce qui est vrai aussi, Sam.
Ouais, tout à fait. Mais quand on lit l'article de Joël dans l'équipe, c'est beaucoup plus, bah, ça se passe de manière courtoise, comment dire, Laurent Bessière va s'engager pour trouver son successeur, etc. Mm-hmm. J'ai l'impression je suis curieux de savoir vraiment où se trouve la réalité, la vérité. En termes d'émotion de chacun, parce que effectivement c'est un moment où on se dit bon là il y a quelques jours de vacances, mais derrière effectivement il y a quelque part ça va être un moment charnière pour les préparateurs physiques avec cette nouvelle préparation pour la deuxième partie de saison. Donc voilà, je suis vraiment en fait un peu déçu, même pour vous dire j'étais un peu groggy quand j'ai vu ce communiqué, parce que je pense que ça va être compliqué de trouver des. Voilà, je parlais de rockstar et des préparateurs de ce niveau-là.
Oui, après, j'imagine que quand même, il n'a pas gardé ses talents ni ses façons de faire dans un coffre fermé à double tour non plus, et que le Racing sait aussi comment faire maintenant depuis que Laurent Bessière est passé
okay.
chez lui.
Alors, on connaît tous la méthode de Franck Hez. Si tu devais demander, alors je vais prendre le coach de Culture 100 heures, Amaury de Monchaux, qui connaît parfaitement les cultures de Franck Hez, de récupérer l'effectif de Lens, je ne suis pas certain qu'il aurait les mêmes résultats. Là, encore une fois, vous savez comment fonctionne Joseph Ougourlian par rapport au budget de Lens, etc. Le fait de mettre, entre guillemets, plus d'argent sur des rôles connexes comme celui d'un préparateur physique, d'avoir un staff élargi, parce qu'on n'a pas forcément l'argent pour faire des gros transferts à 15 ou 20 millions d'euros, ça a très bien marché. Et quelque part, ça me semble compliqué, mais avec ce Racing Club de Lens-là, entre guillemets, le meilleur n'est jamais à exclure. Donc, c'est aussi cet aspect de Joseph Ougourlian et Arnaud Pouille. Ils sont très forts. Ouais. Ils sont très forts et ils sont aussi très forts pour nous surprendre en bien. Mais malgré tout, ça reste un coup dur. Mais peut-être qu'ils vont encore sortir, je ne sais pas quoi, soit en interne, soit en externe, ou les deux, pour remplacer ces départs. Et puis, il y a aussi, avant de vous laisser la parole, les gars, il y a quand même cette mise en demeure qui a été envoyée et à Nice et à Gisolfi. Donc, en fait, cette obligation de respecter ses obligations, justement. Et je suis curieux de savoir ce que ça veut dire, parce que vous savez, cette notion de débauchage, je me suis interrogé d'un point de vue juridique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a le droit de débaucher? Est-ce qu'on n'a pas le droit de débaucher? Bon, enfin, je me suis renseigné pendant 10 minutes sur Internet, mais effectivement, je vois que quand on débauche des salariés d'une entreprise, il y a des conditions à respecter. Et notamment, on n'a pas le droit de débaucher simultanément plusieurs salariés d'une entreprise. Donc, je pense que alors peut-être qu'on aura la réponse, peut-être qu'il y aura une condamnation, je ne sais pas, dans 2 ans ou 3 ans, j'en sais rien. Mais je pense qu'en tout cas, il y a suffisamment d'éléments pour que les conseils du Racing Club de Lens se disent, voilà, là, c'est un peu beaucoup là, ce qu'ils nous font à Nice.
Ouais, surtout que ça sent quand même le truc, le coup de Trafalgar hein, de la part de Gisolfi. Je ne sais pas si Thomas, tu veux réagir à cette info, ce que tu en penses. C'est pas très cool hein, ce qu'il fait, Florent Gisolfi.
C'est pas très cool, mais je me suis mis aussi d'un point de vue personnel dans mon entreprise. Alors, on compare des choses qui ne sont pas forcément comparables. Ouais. Mais je travaille avec des mecs qui sont super bien. Et si je devais partir dans une autre entreprise, j'adorais continuer à travailler avec ces gens-là.
Bien sûr.
Et donc, voilà, tu peux passer un coup de fil en disant est-ce que le projet t'intéresse et tout ça. Ouais. Après, c'est sûr que nous, ça nous fait du mal, mais quand on a pris le directeur.
Encore une fois, c'est le timing, moi, que je trouve.
C'est le timing, en effet. Et si la com du Racing est aussi virulente, c'est aussi un message envoyé aux gens qui restent en disant voilà, on va pas se laisser dépouiller non plus éternellement, et un message envoyé à toute la France et même l'Europe, on va grandir et on va pas se laisser dépouiller de nos joueurs, de notre staff, de notre manager. Et
23, ouais.
Ouais. Ouais. Donc, et après, voilà, totale confiance en Arnaud Pouille et Joseph pour nous trouver une nouvelle parleur rare. Et c'est sûr que ça fait, en termes de timing, beaucoup de coups durs depuis le début de la saison. Ouais. Entre les blessures et les démissions, les départs. Mais on s'en est quand même pas trop mal sorti.
Ouais, c'est ce dont on parlera dans le bilan tout à l'heure. Malgré les coups durs, le Racing n'a pas flanché, en tout cas. Guillaume ou Antoine, vous voulez rajouter ouais. quelque chose à ce qui a été dit, sachant que apparemment Laurent Bessière partirait pour un salaire sensiblement inférieur à ce qu'il aurait été reproposé par le Racing.
Ouais, moi, mon point de vue de supporter, et je pense que c'est l'inquiétude, moi je ressens une certaine inquiétude, et c'est aussi parce que autant tu as un grand joueur de l'équipe qui part, il y a des joueurs sur le marché, on connaît les noms, si tu mets les moyens, tu peux éventuellement retrouver un grand joueur ou équivalent. Là, le marché des directeurs de la performance, je ne suis pas hyper calé dans ce domaine, donc je... C'est quelque chose qui se passe un peu en sous-marin, c'est des échanges entre clubs. Donc effectivement, nous, en tant qu'observateur extérieur, ça m'inquiète parce que je me dis comment on va trouver quelqu'un de la trempe de Laurent Bessière, que d'ailleurs, quand il est arrivé, il avait un super Sévarins, mais…
On ne connaissait pas.
Bon, ça paraît très indirect, en fait. Et peut-être d'ailleurs que leur départ, on va pas s'en rendre compte forcément tout de suite. Bon après, peut-être qu'ils vont nous faire un coup à la Grégory Kidd aller rechercher Guylain Dubois en lui proposant d'être directeur de la performance. Et du coup, ça permettra à Nice de ne pas débaucher plusieurs salariés, de n'en débaucher qu'un, et tout le monde se serre à la main peut-être. Mais voilà, moi je pense que ce qui inquiète, c'est ça. Et puis après, on parle de timing, c'est par rapport à la saison. Moi, je sais aussi le timing par rapport à annoncer ça, a priori, samedi soir après la victoire. Ouais, enfin, je veux dire… On peut pas faire ça dimanche matin. Derrière,
le communiqué qui tombe juste derrière, ouais.
On peut pas faire ça dimanche matin. On peut pas. Ok, tout le monde part en vacances, mais je veux dire, on peut attendre quand même et se laisser la soirée, profiter de la soirée, et puis après. La gueule de bois, on l'a fait le lendemain, pas le soir même, quoi.
C'est peut-être qui découle le communiqué du Racing, justement. Hein,
pour moi, c'est ça. Hein, le communiqué, c'est moi, je vois ça comme une réaction à chaud. Et je pense que si le communiqué est fait le lendemain, il n'a pas forcément la même teneur. C'est un peu, et sans aucune prétention, c'est un peu comme la réaction que j'ai eue. Moi, la réaction à chaud que j'ai eue et la réaction que j'ai le lendemain n'est pas du tout la même, tu vois. Donc, je pense que c'est une réaction un peu à chaud. Et voilà. Ouais, c'est dit, hein, ça change
ça
rien.
Arrive, ça arrive. Dans le chat, Romuald nous dit Ghisolfi récupère simplement le gars qu'il a placé au Racing. On va conclure sur ce sujet pour le moment. On aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard dans d'autres émissions, selon les informations qu'on aura évidemment sur les futurs remplaçants de ces deux hommes. En attendant, on va jouer, messieurs, puisque c'est la mi-temps hein, dans ce Culture Senior. On va jouer avec un quiz qui se joue par équipe de deux, évidemment. Et je vais demander à Thomas Fauvert de choisir son coéquipier.
Guillaume.
Allez.
Oh, étonnant.
Thomas, Guillaume, Sam et Antoine Combe. Alors, le Racing réalise le meilleur début de saison de son histoire, ce qui nous fait espérer, même si ce n'est que les débuts, une belle fin de saison à la saison 97-98, pourquoi pas. Et bien, justement, je vous propose un quiz spécial saison 97-98, un quiz de rapidité. Je vous propose 5 questions. La première équipe à 3 points remporte le quiz. On donne son prénom pour répondre avant de donner sa réponse, évidemment. Allez, première question sur ce thème spécial saison 97-98. Lens termine premier de cette saison, mais avec combien de points?
Sam.
Antoine.
68.
Bonne réponse. Un point pour l'équipe Sam. Antoine, Lens a été leader du classement durant combien de journées?
Guillaume.
Guillaume.
On prend la tête à Metz à 4 journées de la fin, donc je dirais 4.
Faux.
Antoine.
Antoine.
5.
Faux.
Sam, 6.
Bon. Ouais, c'est 6. C'est 6, Sam. Le Racing a été en tête là, lors de la première journée et lors des 5 dernières journées de championnat. Donc, voilà. Ça fait 2 points déjà hein, pour l'équipe Sam, Antoine. Troisième question qui peut être décisive. Meilleur buteur et meilleur passeur de ce championnat de cette saison. Ouais, Guillaume.
Stéphane Tiani.
Alors, c'est deux hein, qu'il m'en faut. Le meilleur buteur et le meilleur passeur.
Du Rovniak buteur et Tiani passeur.
Bonne réponse. Bonne réponse.
Moi, je pense que c'est du championnat.
De l'équipe.
Précise tes questions un peu.
Pour le Racing, bon, on parle du Racing Club de Lens, on s'en fout des autres.
Oui, bon, évidemment. C'est comme la semaine dernière, les questions qu'on comprend.
Bruno Rodriguez à Metz.
15 buts, 15 buts sur la saison pour Dragnac, 9 passes décisives pour Stéphane Tiani. Quel écart de
14
différence...
buts, Dromiak, hein, sur le championnat.
En championnat, en D1, 14 buts. 15 buts au total sur la, sur la saison.
Voilà. Tout va bien. Je vois que tu as bien révisé tes fiches.
Tout à fait. Quatrième question. Quel écart de différence de buts y a-t-il avec le FC Metz à la fin du championnat?
Antoine.
Antoine.
8.
Non, c'est faux.
Guillaume.
Guillaume.
5.
5 bonnes réponses, ouais. 5, ça fait 2 points pour l'équipe Thomas Guillaume. Le Racing termine à plus 25 et le FC Metz à plus 20. Ça va jouer sur cette dernière question, messieurs. C'est parti.
Lachor.
Quel est le dernier buteur? Non, c'est pas ça. Il va falloir être rapide. Hein. Quel est le match le plus prolifique en but de la saison du Racing? Guillaume.
Lance Bastia, 5-1.
C'est faux.
Lance Cannes, 5-4.
Il fallait redire ton prénom, mais c'est ça. C'est Lens.
Bah, dis pas son prénom.
Je suis Lens.
Vous n'avez pas été rapide à réagir non plus, hein, Sam et Antoine derrière. C'est gagné pour l'équipe.
Pour ne rien te cacher, je suis en train de regarder un match de basket en même temps. Et quand ça se passe.
Si on te dérange,
non, mais, non, mais quand tu joues en 3 contre 3 et que tu shootes et que tu récupères le rebond, normalement, il faut que tu sortes de la raquette avant de pouvoir remarquer. Mais enfin, bref,
exactement. Une nouvelle question, c'est ça? Une nouvelle question alors.
J'ai plus de questions, hein. on va valider la victoire limite de Guillaume et Thomas Fauvert. Bravo messieurs, c'est gagné 3-2, c'était serré en tout cas sur ce quiz. On va passer à la deuxième mi-temps si vous voulez bien. On va commencer à faire un petit peu un premier débrief de ces 15 premières journées de championnat du Racing. D'abord, par un débat qui va porter un peu sur le mercato, hein, sur la suite à donner à cette équipe lensoise après ce début de saison. Lens doit-il renforcer toutes ses lignes? Ça, c'est la question qu'on vous pose, messieurs. Cabot blessé, hein, qui va être blessé pendant un long moment, hein, peut-être jusqu'à la fin de la saison. Adam Buxa qui rechute, qui va probablement se faire opérer. Christopher Wu, finalement, qui est parti à la dernière minute en fin de mercato et qui a toujours pas été remplacé. Faut-il que le Racing renforce ses lignes et renforce chacune de ses lignes? Y a-t-il des manques à combler? Peut-il continuer ainsi jusqu'à la fin de la saison? C'est un petit peu la question de ce débat. Je vais lancer Antoine Combes sur le sujet pour débuter.
Pour répondre à la question, je dirais non, pas toutes les lignes.
Ouais.
Sachant qu'au niveau de la défense, la question semble être bientôt réglée avec l'arrivée de Le Cardinal du PFC.
Ouais.
Moi personnellement, je le connais pas suffisamment, mais j'ai cru comprendre qu'il pouvait autant jouer piston que central droit. Donc, ce qui règle notre double souci de remplacer Cabot et remplacer Wu.
Okay.
Au niveau de la quantité. Après, si le club le prend, j'imagine que la qualité est là. Donc, sur cette question, c'est réglé. Milieu de terrain, je pense que c'est pas nécessaire parce que tu as Fofana, Samed, Onana, Poreba. Mmh. Et potentiellement le jeune Fofana, même si je pense qu'on ne le verra pas cette saison, mais si jamais blessure importante ou quoi, pourquoi pas.
Ouais.
Par contre, là où je pense que la question mérite d'être posée et où je pense qu'il faut un renfort, c'est en attaque, parce que avec ce que tu as actuellement, c'est très bien. Tu as une blessure, tu es juste, parce que tu as Saïd et Openda qui finalement font la transition entre deux, ouais. la rotation. Tu as Sotoka qui n'a pas le même profil. Par contre, si tu perds Sotoka, Openda ou Saïd, tu n'as plus personne derrière avec la nouvelle blessure de Buxa. Mm. Donc moi, je pense que ce serait nécessaire de prendre quelqu'un devant. Et ça devrait être suffisant, je pense. Le Cardinal derrière et un attaquant. Parce qu'après, il ne faut pas non plus trop bouleverser ce groupe. Hein, et ramener trop de quantité et privilégier la qualité.
Rien n'exclut aussi, pourquoi pas, des départs, hein, du côté du Racing. Ah non, mais quand on voit ce qui se passe en ce moment.
Ceux qui partent, vu la saison qu'ils font, ce serait plus des joueurs qui font pas, style Fortes. Mmh. Tu vois, ça ne m'étonnerait pas qu'on perde Fortes. Peut-être Bourra, et encore, je ne sais pas.
Ouais, des joueurs peuvent être convoités par d'autres équipes aussi.
Ça, on a la main sur les joueurs. On a la main, CDD, on a la main. Sur un CDI, tu n'as pas la main.
Ouais, bien sûr. Ouais, on est d'accord.
Aussi. Non, pour moi, voilà mon analyse. Pour moi, ce serait un central, donc le Cardinal, ça devrait être réglé. Un attaquant.
Le Cardinal, ouais.
Pour au moins finir la saison, même la continuer, parce qu'on n'est pas encore à la moitié. Pas l'oublier.
Tout à fait.
Le chemin est encore long.
Ouais, ouais. Et puis, il y a Openda qui va faire la Coupe du Monde. On ne sait pas jusqu'où va aller la Belgique, mais malgré tout, ça peut durer un petit peu dans le temps. Rien n'exclut non plus, c'est vrai, hein, des blessures. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce débat, toi, Guillaume? Est-ce que tu as un avis différent d'Antoine?
Globalement, assez similaire à ce d'Antoine. Je pense qu'il faut reconstituer juste le groupe qu'on avait en début de saison. Effectivement, il y avait Wu qui n'a pas été remplacé. Et puis, avec la blessure de Cabot, effectivement, il faut quelqu'un. La seule chose là-dedans, c'est que Wu, il ne couvrait pas uniquement le Grady, il couvrait surtout Danso. Et le Cardinal, pour moi, il peut couvrir Grady et peut-être Cabot, mais c'est vrai que c'est Danso qui est. Je ne vois pas dans l'effectif qui a le profil de jouer un peu au milieu de cette défense à trois.
Qui tu mets si
tu mets Fortes.
Moi, je ne mets personne. Je ne suis pas du tout légitime. Mais dans la tête de Franck S, c'est Fortes.
Fortes. D'accord. Donc il faut surtout pas lâcher Fortes, alors, parce que sinon on n'a personne pour être à ce poste-là.
Si Kevin Danso se blesse, on ne le jette pas, mais sur une période assez longue, type 3-4 mois, vous pensez vraiment que Steven Fortes peut faire la différence, en tout cas avoir un petit peu faire le remplacement de Kevin Danso sur la longue durée?
Est-ce que Sotoka, tu le penses à ce niveau-là?
Non, d'accord, on est d'accord. Je pose la question, moi. Je...
Après, il n'y a pas Lecoq qui reprend sa place et Sambo qui peut aussi jouer dans la défense à 3. C'est une possibilité. Non, donc pour revenir sur le sujet Mercato, sur l'aspect offensif, ouais, c'est vrai que Buxa, on a un peu des incertitudes parce qu'il est blessé 3 mois, mais en plus, il n'avait quand même pas trop pris son rythme. S'il leur faut encore quelques mois, ça veut dire qu'on ne peut presque pas compter sur lui cette saison.
Donc effectivement, Buxa, il faut le remplacer. Après, je pense que en général, on dit abondance de biens ne nuit pas, mais je pense que côté Racing Club de Lens, Franquette, il veut quand même une gestion de groupe resserrée. Donc ouais. Abondance de biens éventuellement peut nuire justement dans un équilibre de groupe. Donc les retouches pour remplacer les blessés ou un Wu partant, et encore, même Wu, on peut se poser la question. Mais surtout les deux blessés, Cabo et Buxa, ça, il faut les remplacer. Après, Wu, peut-être pas le remplacer, et avec le Cardinal qui jongle un peu sur les deux postes, ça peut le faire. Et puis Fortes, pourquoi pas.
Medina, je me permets de te couper, Guillaume Medina avait joué libéro aussi sur un match à Monaco. Il y a une ou deux saisons, je ne sais pas si tu te souviens.
On ne rappelle plus, non.
Enfin, il a fait quelques fois, je pense qu'il pourrait dépanner à quelques.
Faire, avec Aïdara, à sa place.
Reprises, ouais, exact.
Ok. Maintenant que tu as pris la parole, Sam, je te lance sur le sujet. Ce sujet Mercato, que penses-tu, toi, de cette question? Le Racing doit-il se renforcer et pourquoi pas à toutes ses lignes?
Je pense que ce qui me paraît le plus évident, c'est de remplacer Brice Samba.
C'est vraiment le point faible de l'équipe, ouais, c'est vrai.
Non, mais je vais aller dans le sens de mes collègues. Effectivement, je ne connais pas non plus le Cardinal, mais effectivement, c'est pour le poste de piston et de stopper droit. Après, je veux dire franchement, quand on parle de maximisation du potentiel de l'équipe, offensivement, ce qu'a fait Lens sur les 15 premières journées. Pour moi, je ne veux pas dire que ça tient du miracle, mais là, ils sont en train de tourner avec 5 joueurs à vocation offensive. 5 joueurs à vocation offensive, sachant qu'il y en a 3 qui commencent pratiquement sur chaque match. Et j'aime bien ce que dit S sur le côté, il y a les titulaires et les finisseurs. C'est-à-dire qu'en fait, pour vraiment performer, et je suis même hyper étonné qu'au très haut niveau, ce ne soit pas la stratégie de tous les entraîneurs. Mais bon, voilà, tant mieux pour Lens quelque part. Mais évidemment qu'il faut des titulaires qui soient à un haut niveau et des joueurs qui terminent, des finisseurs, qui soient des impact players, comme on dit dans un bon français. Et donc, faire ça à 5, c'est de mon point de vue, c'est prendre un risque quand même important. Il suffit que tu aies une seule blessure. D'ailleurs, c'était le cas à Reims. À Reims, il part avec 4 joueurs offensifs confirmés. Pour moi, c'est que dalle. Imagine, enfin, t'en as un qui se blesse, je sais pas, en début de match. Alors après, il y a évidemment la possibilité de faire venir des joueurs de N3, mais
quand même. Est-ce que c'est pas l'occasion à ce moment-là, pourquoi pas, de lancer aussi un jeune de N3?
Ouais, certainement, mais bon, là, on parle
de. Bolascari, pourquoi pas, je sais pas.
Ouais, tout à fait. Il y a 4 divisions d'écart.
Ouais, on est d'accord.
Après, effectivement, j'ai été surpris. Il disait, voilà, moi, je peux imaginer Seko Fofana dans un rôle plus offensif. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Vous avez
en 3-5-2 à Marseille contre Toulouse, c'est ça?
Voilà, contre Toulouse, exactement. Donc, c'est ce qu'il a fait. Mais pour moi, ça me semble absolument évident. Et enfin, je vais pas trahir de secret. Je pense pas en trahir, mais je pense que dans la tête de S, c'est absolument évident. Il faut une recrue offensive sur ce mercato. Moi, je vous dire, j'ai été même surpris. Par rapport au début de saison hésitant de Buxa, puis il s'est blessé, etc., de voir partir Kakuta. J'ai trouvé que c'était entre guillemets sympa de la part du RC Lens par rapport à Kakuta et Amiens de le laisser partir, mais simplement pour une raison de quantitative. Alors, il se trouve que ça s'est super bien passé sur les 15 prochains matchs. De mon point de vue, ça tiendrait quasiment du miracle que ça se passe bien sur 38. Par rapport aux blessures, aux difficultés physiques, aux suspensions, etc., sur 38. Donc, moi, ça me paraît indispensable. Encore une fois, pour performer à un très haut niveau. Hein.
Tu penses que c'est complémentaire, du coup, Alan Saïd en attaque?
Il est chiant.
Je ne sais pas.
Non, mais enfin, de toute façon, vu le début de saison du Racing, on va parler dans un instant, on ne peut pas ne pas imaginer vouloir performer au niveau là où on est, là encore une fois où on est à l'heure actuelle en termes de classement et de performance. Thomas, pour finir sur le sujet Mercato, est-ce que tu rejoins un petit peu tes autres collègues? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet?
Oui, bien sûr. Je suis totalement d'accord avec eux. On ne va pas chambouler ce groupe qui vit très bien et qui performe bien. Après les quelques retouches une en défense, une en attaque, et peut-être une
opportunité
à la manière de Patrick Berg.
Patrice Berg, c'était pas le même,
Non, Patrick Berg, ça n'a pas fonctionné avec Abdoul Samad cet été, mais une prévision d'avenir. Ouais. Sachant que si on veut aller encore plus haut, on va devoir étoffer le groupe en qualité surtout, et peut-être en quantité si on doit jouer plusieurs tableaux l'année prochaine. Et on sait l'importance de l'intégration dans, dans ce groupe, parce qu'on est sur un savoir-faire, aussi un savoir-être important pour la cohésion de toute l'équipe.
Ouais. Et tu peux, ouais, pourquoi pas, anticiper en tout cas une bonne fin de saison et pourquoi pas voilà, peut-être miser sur un bon plan comme tu dis Thomas. On va passer au bilan, hein, enfin en début de bilan, hein, parce qu'on ne va pas faire un bilan, mais en tout cas essayer de débriefer un petit peu ces 15 premières journées de championnat, hein, qu'on a vécu, les 15 meilleures premières journées de l'histoire du Racing Club de Lens, hein, tout simplement. Meilleure série de victoires à domicile du siècle, hein, 8 sur 8. Deuxième avec 36 points au tiers du championnat, 2,40 points par match quand même, c'est énorme. 11 victoires, une seule défaite en 15 matchs. Deuxième défense du championnat. Un début de saison tout simplement record. Est-ce que Sam, tu es surpris par ce début de saison?
C'est compliqué parce que en fait, je voyais Lens déjà plus haut que la saison dernière, ouais, début de saison.
Mais est-ce que donc, aussi haut?
Mais aussi haut, non. Bah, je veux dire, mais personne ne pouvait l'imaginer. Même Francaise, 2,4, c'est extraordinaire. C'est très rare. Alors pour Lens, c'est inédit. Mm. Mais de manière générale, pour la Ligue 1, c'est extrêmement rare. Mm. Donc voilà, je voyais Lens dans le top 5. Mais évidemment, pas si haut. Moi, ce qui me stupéfait, alors tout à l'heure, j'entendais les termes sérénité. Moi, je ressens beaucoup de sérénité chez Franck Haise, en fait. Je me souviens l'avoir rencontré avant le match de Rennes. Je sais pas comment vous dire ça, mais il m'avait donné l'impression qu'il savait qu'il allait battre Rennes, en fait. En fait, moi, ce qui me marque avec Haise, c'est qu'il a toujours un temps d'avance. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en fait, je sais pas comment vous dire ça, mais qu'il a déjà vécu les matchs avant de les jouer. En fait, qu'il a réfléchi.
C'est Seb Dallet, ça.
Il y a Sébastien Dallet et Franck Haise. Mais d'ailleurs, il y a peu de temps, je lisais une déclasse sur le côté. Enfin, c'était d'ailleurs, ça avait fait tilt par rapport au match de Marseille, dont on a parlé par ailleurs, mais ça, c'est entre nous. Mais en Coupe d'Europe, vous savez, où ils sont qualifiés pour la Ligue Europa. Puis on a l'impression qu'ils n'ont pas du tout réfléchi à cette opportunité-là de qu'est-ce qu'on, ouais, fait si on est un partout. Enfin, bref. Haise, il me donne l'impression, en fait, d'avoir réfléchi à tout, d'avoir toujours un temps d'avance. Et c'est vrai que quand tu as un temps d'avance et que tu sais, je sais pas, en mode Sébastien Dallet, savoir exactement ce qui va se passer, mais un peu quand même, bah, c'est là où tu peux créer des différences par rapport à l'adversaire. Et voilà, là-dessus, je crois qu'ils ont un temps d'avance sur énormément de clubs de Ligue 1, y compris du haut de tableau, y compris avec des budgets largement supérieurs. Mmh. Donc, on parle toujours, vous savez, de la fameuse surperformance. Alors, par rapport au budget, par rapport aux prestations, il y a zéro sur performance.
Je suis complètement d'accord avec toi, Sam.
C'est tout ce qui se passe et on ne peut plus logique. Mm. Donc, c'est pour ça que, voilà, là, c'est une saison particulière avec une rupture ici. Il y a les préparateurs physiques qui s'en vont. Bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais évidemment, ça va être compliqué. C'est ce qu'il disait de tenir à 2,4 points. Mais OK, mais même si tu passes de 2,4 à 1,8 sur les 23 matchs qui suivent, bah, ça fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de points à la fin, en fait, tout simplement.
Ouais. Un des mots qui est beaucoup revenu, hein, sur ce début de saison, Antoine, c'est le mot maturité. Un des points forts, hein, sur ce début de saison du Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens a appris, a agi en conséquence, malgré même les contre-coups qu'il a pu avoir, hein, les quelques contre-coups de ce début de saison. On pense au départ de Gisolfi malgré tout, les blessures de Gradit, les blessures de Jimmy Cabot. On ressent une maturité et un collectif extrêmement fort.
Mais c'est totalement ça. De toute façon, j'ai l'impression qu'à chaque match, on dit maturité. Ben, tu peux dire que le match de Clermont, c'est encore une maturité, hein, mmh, où l'équipe ne panique pas. Et en fait, ça, tu le vois sur l'ensemble des matchs. Et je sais plus la stat exacte, mais je crois qu'on est à 8 victoires avec un but d'écart, il me semble, ouais, dans ces eaux-là.
Numéro 1 en Europe. Merci, Lucas.
Ouais, c'est ça. Exactement. Mais, et ça, c'est preuve d'un savoir-faire dans la gestion des matchs, et ça on le voit depuis le début de saison, où c'est l'un des gros axes de progression de cette équipe, où elle sait bien mieux gérer ses matchs, bien mieux gérer ses temps forts et ses temps faibles, et notamment ce que je répétais encore tout à l'heure, savoir imposer savoir maîtriser le rapport de force. Et à partir du moment où tu arrives à maîtriser et à gérer tous ces éléments et un peu à en faire ce que tu veux, hein, j'expliquais lors du match d'Angers, c'est ce qui te fait passer dans une autre dimension en termes d'équipe. où là tu passes dans les un peu les équipes rouleaux compresseurs du championnat. Tu sais que tu vas jouer le PSG, tu sais que tu vas prendre le feu. Tu sais que tu vas jouer Lens, tu sais que tu vas prendre le feu. Et c'est ce qu'a dit encore Pascal Gassien à la fin du match. C'est l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe collective. Il ne parle même pas d'individualité, il ne parle pas de Fofana, etc. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est une équipe, une machine de guerre, mais vraiment collective. Et comme aime à le rappeler Ez, quand on dit collectif, ce n'est pas juste les 23-24 joueurs pro et le staff, c'est vraiment tous les étages. Que ce soit la cellule performance, la cellule recrutement, la cellule un peu plus haut au niveau de l'administratif avec Pouille, etc. C'est juste une finalité logique quand ça travaille bien. Ouais. On voit l'inverse des clubs où ça travaille mal, voire très mal, comme Lyon actuellement, Monaco qui est en dents de scie parce qu'ils ne savent jamais s'ils doivent garder l'entraîneur, s'ils doivent le sauter. Donc à partir de là, c'est juste une conséquence logique du bon travail. Et si on prend en plus l'effectif de la première saison en Ligue 1 depuis la remontée, puis de la deuxième, puis de cette année, finalement, il n'a pas énormément bougé. Il a bougé à quelques postes. L'année dernière, il y a eu une arrivée importante, celle de Danso, etc. Là, tu as eu le départ de Doucouré et Clos. Mais finalement, c'est un groupe qui se connaît.
Il a été ajusté, cet effectif.
Voilà, voilà, c'est ça. Mais si tu prends les bases, c'est des joueurs qui maintenant commencent à se connaître depuis plusieurs mois. Tu as des joueurs qui partent en vacances. Encore, là, on a vu, j'ai vu sur Instagram Sotoka et Gradit qui partent en vacances ensemble.
Les spécialistes people en train de combat.
C'est ça qui est ultra important. Tu as vraiment une cohésion d'équipe qui se retranscrit sur le terrain. Donc, tous les feux sont au vert et on ne peut employer que du superlatif parce que c'est un début de saison super et historique de toute façon.
Ouais, ouais. Moi, j'ai une stat. Depuis la mise en place de la victoire à 3 points, 1994, le RC Lens n'est que le 6e club de Ligue 1 à compter au moins 36 points après 15 journées depuis 1994, et dans ce club, il y a Marseille, Monaco, Lyon, Nice et Paris. Voilà.
Juste pour faire un peu le... ce qui est un peu dommage, c'est que si tu n'as pas le PSG qui déséquilibre le championnat...
Tu es leader du championnat.
Est-ce qu'il n'y a pas... Voilà, est-ce qu'il y a pas une saison 90 que tu allais refaire à Auxerre?
Non, mais... Alors, j'en sais rien.
C'est pas mort.
Je suis désolé de le dire, pas mort. Alors, je le dis parce que, si tu veux, c'est une saison particulière avec cette rupture de Coupe du Monde. T'as 12 Parisiens qui vont à la Coupe du Monde. Dans quel état ils vont venir? Est-ce qu'ils seront même, ne serait-ce qu'intéressés?
Surtout
par
qu'on les joue le 1er janvier, le Paris.
Après, il y aura encore plein de matchs derrière, mais moi, je mets 30 secondes dans la tête de Messi, Neymar. J'ai gagné la Ligue 1, je sais pas combien de fois. J'ai gagné des titres, je sais pas combien de fois. J'ai une Coupe du Monde. C'est évidemment l'objectif de ma saison. Derrière, il faut que je me tape des matchs de Ligue 1. Pardon de le dire, mais j'en ai rien à battre.
Il y a des champions aussi à jouer.
J'ai joué à la Coupe du Monde, c'était mon objectif de la saison, j'ai réussi ou pas. Après, derrière, il y a la Ligue des Champions à gagner. Mais la Ligue 1, je m'en cogne.
On a l'antenne,
ce que je veux dire, c'est que je dis pas que Lens va être champion. C'est ce qu'on disait. Je dis simplement que Lens peut être champion. Ouais. Avec une probabilité qui est minime. On va le reconnaître.
Mais c'est pas mort.
Mais c'est déjà fou de le dire.
Ouais, c'est vrai. Après, du coup, il faut souhaiter que le PSG aille le plus loin en Ligue des Champions. Ouais. Parce que si le PSG sort en février-mars contre le Bayern, ils n'auront plus que ça. Donc forcément,
Ça veut rien dire.
On peut pas encore.
On les maintenir sous pression la Ligue des Champions. S'ils la quittent très tôt, ils peuvent avoir. Mais un sentiment d'abandon total.
On en reparle en février.
Le feu au stade comme ils ont eu l'année dernière. Moi, je suis pas convaincu par ça.
En tout cas, pour rebondir sur ce groupe très fermé, hein, des 36 points après 15 journées, c'est grâce aussi Thomas Fauvergue, et ça, c'est un peu une découverte malgré tout, parce qu'on n'a pas eu l'habitude encore, et c'est vraiment une découverte cette saison, une défense de fer qu'on découvre du côté du Racing, deuxième défense du championnat, et une intelligence de jeu aussi qui cesse de s'accroître, d'évoluer, moins tout feu tout flamme peut-être, mais beaucoup plus réfléchi encore cette saison, Thomas.
On est d'accord, on a encore le côté tout feu tout flamme avec Medina.
Ouais.
On a fait un débat il y a quelques semaines où on parlait peut-être de points faibles au niveau de la défense avec la blessure de Grady puis de Cabot. Mm-hmm. Et en fait, on prend très peu de buts en mettant Aïdara. Et on sent vraiment des automatismes formidables derrière. Et peu importe qui tu mets en piston. Le taf est fait et les mecs qui sont derrière connaissent les habitudes de montée de chacun et c'est peut-être pour ça aussi que Machado que Medina monte plus souvent à gauche que Grady en ce moment, parce qu'il sait que Machado derrière, ils se connaissent pas par cœur leur connexion sud-américaine et c'est très bien. Et forcément, par rapport à l'année dernière, on a passé un cap, ce qui nous permet de, donc on prend moins de buts, donc on n'est pas obligé d'en marquer 4 pour gagner un match. Un seul ou deux peuvent suffire, et c'est la stat qu'on a évoquée tout à l'heure, 8 matchs gagnés par un seul but d'écart. Donc on est solide, on est plaisant à voir, mais on n'est pas non plus l'équipe qui met 40 buts dans la saison.
Ça sent quand même le rouleau compresseur se ressent malgré tout, autant offensivement que défensivement, on le sent quand même, hein, parce que honnêtement, quand tu regardes un match du Racing cette saison, en tout cas c'est mon cas, derrière, j'ai rarement tremblé cette saison sur phase défensive, quoi. Alors que peut-être qu'on
peut le faire en souvient match, mais on n'a pas peur un quart d'heure d'affilée.
Voilà, c'est ça. Alors que la saison dernière, on se souvient encore que des fois sur deux trois actions, on pouvait être renversé. Pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, Sam, et on va terminer un petit peu le bilan là-dessus. Déclaration de Francaise après le match. Hein, tu parlais que c'était pas mort pour être champion de France. Comptablement, tenir cette moyenne de points d'un champion, je pense que ce sera très compliqué. Mais ce qui compte, c'est que l'on continue à mettre autant de vie, de passion, d'énergie et de qualité. Voilà. C'est ce qu'a dit Francaise après le match face à Clermont. Pour terminer, Guillaume, tu veux rajouter quelque chose un petit peu sur ce qu'on a dit sur ce bilan de début de saison ?
Ouais, je voudrais rajouter deux trois points. Alors effectivement, même en maintenant 2,4, ça nous ferait 91 points. Ouais. Et à 91 points, tu n'es pas sûr d'être champion avec un pari qui peut aller tutoyer les 100 points. Hein. S'ils ont décidé de le faire, ils peuvent le faire. Je rebondirai ce que ça m'a dit sur Francaise qui maîtrise tout, qui voit les matchs, qui voit ce qui se passe, qui a un sentiment de plénitude. J'ai quand même envie de voir, après le départ de Gisolfi, se lui a amené des joueurs. Une fois que les joueurs les ont sous la main, il les gère. Donc cette saison, c'est bon, on a notre groupe. Le départ de Laurent Bessière, c'est quand même son bras droit armé de la performance. J'ai envie de voir comment je n'ai pas de doute, mais j'ai envie de voir comment il gère cet aspect-là qui est quand même pour moi un coup dur, et notamment pour lui. Hein, c'est quand même son bras droit sur l'aspect physique. Notre jeu est quand même aussi beaucoup axé sur la performance physique des joueurs, le dynamisme, l'énergie. Donc ça, c'est quand même une question qu'on peut se poser pour la deuxième partie de saison. Sur les premiers matchs, effectivement, hormis peut-être le match à Marseille, je pense qu'il n'y a aucun match où les points à la fin, on ne les mérite pas. Donc globalement, c'est vrai qu'on ne surperforme pas par rapport au nombre de points. On a été mené que 3 fois en 15 matchs. Donc c'est aussi très très fort, et avec ça on a fait une victoire, un nul, une défaite. Et je mettrais quand même une petite piste quand même de performance, parce que tu soulignes la défense 10 buts, que c'est super, mais sur ces 10 buts, moi j'estime qu'il y a quasiment 6 buts sur coup de pied arrêté, sur corner même. Deux corners qui ont concédé un penalty, c'est à Lille et contre Brest, et ensuite 4 buts encaissés encore sur corner, donc 6 buts quasiment sur 10 sur corner. Et pour moi les corners, c'est pas quelque chose de, je pense, de compliqué à, enfin, avec le travail, on doit pouvoir mieux gérer les corners. Et c'est, alors j'ai du mal à l'expliquer parce que…
C'est vrai que dans le jeu, il n'y a pas énormément finalement, dans le jeu pur,
on prend 4 buts. On prend 4 buts dans le jeu, donc, dont 1 à 10, donc, à Reims. Donc dans le jeu, c'est exceptionnel. Par contre, 6 buts sur corner, enfin 2 pénalties et 4 corners, mais 2 pénalties suite à des corners, ça, je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus, parce que ce n'est pas compliqué pour moi de s'améliorer sur ce point-là. Et quand on voit ce qui compose la défense et notre gardien, j'ai pas d'explication rationnelle à cette capacité à encaisser quand même 6 buts sur ces actions-là. Ouais. Et donc c'est plutôt un signe positif, parce que pour moi, je pense qu'on n'est pas encore au taquet de notre progrès. On a encore de la marge.
Connaissant Francaise, je pense qu'il a, tout comme Guillaume, noté également cet axe de progression, et j'imagine.
De toute façon, je l'avais appelé, hein, je lui avais dit.
Évidemment, avant le match. D'ailleurs, il nous regarde, Francaise, je suis sûr. Bon, les gars, merci, merci pour ce débrief. Ce débrief de ce match à Clermont, ce débrief de cette première partie de saison, en tout cas, ce premier tiers de championnat. Alors, on n'a pas de match à pronostiquer pour l'instant, puisque la trêve a débuté. Le championnat ne reprend que le 26 décembre prochain. D'ailleurs, un déplacement à Nice qui va être très, très, très intéressant au-delà de l'aspect sportif à regarder. Je vais quand même vous poser la question, de vous demander votre pronom, à votre avis, le parcours de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Du coup, tiens, Guillaume, jusqu'où vont aller les Bleus ?
Ah, j'étais pas prêt, là. J'ai cru que tu allais nous demander le classement.
Non, non, non.
équipe de France à la Coupe du Monde. La Belgique aura la possession, ça c'est sûr. et après, l'équipe de France, ça dépend tellement du tirage au sort de ce qu'ils vont se taper en huitième quart. J'avoue que j'ai pas suivi les.
Ah, donc ils vont quand même passer les poules pour toi.
Non, mais les poules, oui, en fonction du tirage, demi-finale.
Allez, Antoine.
Je pense que on finit deuxième de poule déjà. Je pense qu'on perd contre le Danemark. On bat l'Australie et la Tunisie. Huitième. On sort en huitième.
Ce serait plus aussi compliqué que ça. Thomas Fauvergue.
Ouais, je pense qu'on sort des poules puisqu'on va vaincre la malédiction du champion du monde sortant.
Ouais.
Je me vois bien finaliste. Peut-être pas en finale, mais au finaliste.
Ça non, pas nouveau, pas finaliste. Hein. Si on y va, c'est pour la gagner.
Ouais, mais tu vois, on aura fait tout ça pour rien.
Allez, Sam, ton avis sur l'équipe de France.
Demi-finaliste.
Ah, vous êtes quand même assez optimiste. Hein. Vous êtes assez optimiste.
Sortir en 8e, c'est pas optimiste. Hein.
Non, mais globalement, sur tout le monde, c'est assez optimiste, hormis toi.
Ça permettra que Deschamps re-signe pour 10 ans encore s'il finit le top 4. Donc c'est bien
qu'il arrive.
Ce qui peut être important par rapport.
Allez, rapidement.
On rapporte toujours par rapport au Racing Club de Lens. Si la France va loin, pas d'Mbappé à Bollard. Moi, je signe. Rien que
c'est
pour
possible.
Ça, je signe.
Ouais, c'est
rien
vrai.
Pour ça, je signe.
T'as raison, parce qu'après, il y a la petite.
Ils auront leur pause.
Ouais, bien sûr.
Ce serait bien. France-Argentine, Brésil.
France-Brésil ou France-Argentine, ou alors le Brésil soit en demi ou l'Argentine, ça serait cool.
Exactement.
Bon, bref, ça se trouve, on les battra quand même avec tout ça sur le terrain. Merci beaucoup, messieurs. C'est un plaisir, évidemment, de débriefer les matchs avec vous, et notamment quand ça se passe aussi bien. Mais on est là aussi quand on perd, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup d'être fidèle à Culture Senior. Vous qui nous regardez de plus en plus nombreux, hein, je vous le dis toutes les semaines, mais n'hésitez pas à continuer à commenter, à liker nos émissions, à vous abonner à notre chaîne pour notre visibilité. Et pour vous avoir plus facilement accès à toutes nos émissions et être notifié dès que c'est le cas. Merci Sam, merci Guillaume, merci Thomas, merci Antoine. On se retrouve très vite dans Culture Senior. On sera quand même présent durant la trêve internationale quelques lundis. Merci beaucoup, passez une belle soirée et à bientôt. Ciao, ciao.